Alors ce matin, nous ne serons pas dans le livre de l'Ecclésiaste. La thématique est plutôt en lien avec... C'est plutôt en lien ce matin avec la thématique de la semaine universelle de prière qui commence aujourd'hui et donc qui dure jusqu'à dimanche prochain. Et je pose une question. Quelles ont été les dernières paroles que Jésus a adressé à ses disciples avant qu'ils ne remontent vers le Père? Bien souvent, les dernières paroles qu'une personne peut prononcer sont parmi les plus importantes que toutes les paroles que la personne a pu prononcer dans toute sa vie. Il suffit d'ailleurs de voir les testaments que les défunts adressent à leurs proches. En regardant la fin des évangiles, nous voyons que Jésus laisse un ordre de mission à ses disciples. Et cet ordre de mission marque à la fois la fin des évangiles et le ministère public terrestre que Jésus a mené, en particulier auprès de ses contemporains juifs de son temps. Et cet ordre de mission nous conduit aussi vers le livre des Actes des Apôtres avec les débuts de l'Église. Et là, c'est l'Église qui prend le relais et la mission de Dieu qui s'étend au monde entier. Cet ordre de mission qu'il y a à la fin des évangiles, c'est un peu comme un pivot d'une transition entre les évangiles et les actes des apôtres. Et ce matin, nous allons regarder de plus près ce que nous avons à la fin de l'évangile de Matthieu. J'affiche la référence ici, Matthieu 28, versets 8 à 20. Nous allons lire un peu le contexte aussi, repartir à partir du verset 8 jusqu'à la fin du livre. Le texte s'affiche ici dans la traduction de la Colombe. Il s'agit dans le contexte des femmes qui étaient venues au tombeau, elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et dès qu'ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les disciples se rendent donc en Galilée, à l'endroit que Jésus leur a désigné. Ils sont au nombre de 11. Il s'agit des apôtres, les 12 moins 1, moins Judas, qui s'était suicidé peu avant, rongé par le remords d'avoir livré Jésus. Et nous avons ici, dans les trois derniers versets, 18, 19 et 20, de cet évangile de Matthieu, les paroles que Jésus a adressées parmi les dernières qu'il a adressées à ses disciples avant de retourner vers le Père. Je vais faire un écho avec ce dont nous avons parlé cette semaine dans les groupes de quartier ou dont on parlera la semaine prochaine, parce qu'il y a des groupes qui n'ont pas encore eu lieu la semaine passée, mais qui auront lieu cette semaine. où nous avons parlé, ou nous parlerons, de la notion de structure d'un texte biblique. Et je vais relire à nouveau ces paroles ici, que j'affiche exprès sans verset, sans numéro de verset, juste le texte, les dernières paroles que Jésus a dites. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas se laisser influencer par le découpage en versets, hein, comme on l'a vu cette semaine, ce n'est pas inspiré par Dieu, ces découpages en versets, ou encore moins en chapitres, voilà. Donc on ne prend que le texte et on le relit. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment est-ce que ce texte est présenté ? Quelle est la structure ? Est-ce que ça fait un écho par rapport à ce dont on a parlé cette semaine ? D'autres en parleront la semaine prochaine. Je vous laisse encore 10 secondes. Allez, on peut repérer qu'il y a quatre parties dans ce passage. Quatre parties qu'on peut disposer de la manière suivante. Une première partie qui concerne Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Une deuxième partie qui concerne les disciples. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Troisième partie qui concerne, là encore, les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et puis une quatrième partie qui concerne de nouveau Jésus. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a en vert ce qui concerne Jésus, en bleu ce qui concerne les disciples. On a ici une structure en chiasme dont on a parlé dans les groupes de quartier. Et le principe du chiasme est le suivant. Le texte est découpé de telle sorte que les parties se correspondent deux à deux en partant du haut, du bas et en allant vers le centre. Et plus on va vers le centre, plus on va vers ce sur quoi l'auteur veut mettre l'emphase, l'accent. Par exemple, un mot d'ordre, une exhortation ou alors la chute d'un récit. Et c'est bien le cas ici avec ce que Jésus attend de ses disciples. Il attend ce qu'il a dit ici et qui est affiché en bleu. Je fais juste une petite parenthèse pour rappeler que le livre de l'Ecclésiaste, il est aussi structuré en chiasme, mais cette fois-ci l'ensemble du livre. On a une introduction auquel répond une conclusion, la thèse qui est rappelée aussi à la fin, un prologue auquel répond un postlogue. Et puis au cœur de tout ça, on a le corps du discours qui est découpé en deux parties, d'abord une description de la réalité, et ensuite comment vivre cette réalité avec des conseils donc de sagesse. C'est le livre de l'Ecclésiaste dans son ensemble qui est structuré de cette manière en forme de chiasme. Je ferme la parenthèse. À cet outil de la structure, on peut ajouter un autre outil dont on n'a pas encore parlé dans les groupes de maison, mais on en parlera bientôt, qui est celui de la répétition. Et on repère que dans ce texte, il y a un petit mot, un tout petit mot, qui est répété à plusieurs reprises. Et ce n'est probablement pas un hasard. À votre avis, je vous laisse 10 secondes. Je ne sais pas qui l'a dit, mais bravo Marc, très bien. C'est le mot « tout ». Et comme par hasard, il apparaît une fois dans chacune des parties de la structure, comme par hasard. Il m'a semblé pertinent de ce que la prédication de ce matin suive cette structure en quatre parties, et c'est donc le plan que nous allons opter. Première partie, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Quand Jésus se manifeste là aux 11 disciples, aux 11 apôtres en Galilée, il l'adore, mais il se sent faible. Et même, il y en a quelques-uns qui ont des doutes. On l'a lu dans le contexte. Ils se sentent un peu déconcertés par tout ce qui est arrivé ces derniers temps, et c'est pourquoi Jésus affirme sa toute-puissance. Il faut dire que quelques jours avant ces événements, Jésus est mort sur la croix. Il a porté la condamnation que nous méritions à cause de nos fautes. Il a bu la coupe du supplice le plus terrible qu'on pouvait infliger à l'époque, la crucifixion. Il est mort, il a été mis au tombeau, mais Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, on l'a même chanté tout à l'heure, et on en reparlera encore à Pâques, et on le rappelle tellement souvent, parce que c'est central dans notre foi chrétienne. Par sa résurrection, Jésus montre qu'il a triomphé de la mort, et tout pouvoir, toute autorité, on peut aussi traduire ici toute autorité, lui ont été données. Il est le Seigneur sur toute chose. Il se présente comme souverain sur tout l'univers, dans le ciel et sur la terre. Alors pourtant, son pouvoir et son autorité restent cachés, en tout cas pour un temps. Il n'y a pas une apparition médiatique de Jésus ressuscité. D'ailleurs, dans les versets du contexte, les versets 11 à 15, qu'on a lu tout à l'heure, on voit que les gardes romains qui avaient surveillé le tombeau, ils sont achetés pour se taire, pour ne pas révéler que Jésus n'est plus dans le tombeau et pour ne pas susciter l'émotion parmi le peuple. Il y a seulement un certain nombre de disciples qui l'ont vu ressusciter à plusieurs reprises, et dans le premier livre de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, il y a même un moment où Jésus est apparu auprès de 500 personnes à la fois. Des preuves solides de sa résurrection. Le fait que Jésus ait reçu tout pouvoir, cela encourage les disciples qui étaient perdus, déconcertés par les événements qui venaient de se dérouler. Et combien de fois il nous arrive, nous aussi, d'être découragés, d'être malmenés par les épreuves de la vie, et elles sont nombreuses, mais nous savons qu'un jour, toutes ces choses s'arrêteront. Toute souffrance, tout deuil, tout le monde reconnaîtra que Jésus-Christ est ressuscité. On l'a chanté tout à l'heure, tout genou fléchira, de gré ou de force. Il est Seigneur. Il est, on peut même dire, le Seigneur sans égal. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et puis nous avons ensuite la deuxième partie où Jésus commence avec ce fameux ordre de mission. Et c'est ce qui est au centre de cette structure en chiasme ici. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Le petit mot « donc » est intéressant. J'ai reçu tout pouvoir. Allez donc, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez vous reposer sur moi. Et on en reparlera à la fin. Jésus nous rappelle que le message du salut est en lui, en Jésus-Christ, et il est pour le monde entier. Le monde entier, pour chaque individu. Il s'agit d'un ordre de mission sans frontières. Les apôtres à qui Jésus s'adresse ici en Matthieu 28 sont les représentants de l'ensemble de la communauté qui est encore en devenir, l'Église, qui verra le jour quelques jours plus tard avec la Pentecôte et le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres précisément. En mentionnant à la fin du passage ici « jusqu'à la fin du monde », Jésus suggère que la mission est pour tout le temps de l'Église. C'est-à-dire tout le temps qui nous sépare de ce moment où il va retourner vers le Père jusqu'au moment où Jésus va revenir. Et c'est là, en tant que disciples de Jésus, que nous entrons en jeu, à la suite des premiers disciples qui étaient ici les apôtres. Cette mission que Jésus confie à son Église se situe dans le cadre plus large de sa mission à lui. C'est la mission de Dieu. Et c'est d'ailleurs symboliquement représenté ici par le fait que Jésus donne rendez-vous sur une montagne en Galilée. Et ce n'est pas sans rappeler dans l'évangile de Matthieu le discours, le premier discours qu'il a dit en Matthieu 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne en Galilée. J'ai commencé là, maintenant je m'en vais, je vous donne rendez-vous là et c'est à vous de prendre le relais. Dieu est le missionnaire par excellence. Et d'ailleurs, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est venu vers nous. Il s'est incarné en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Il nous a sauvés. Je lis un texte qui n'est pas affiché. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. On est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Une petite phrase qui décrit le ministère de Jésus. C'est comme un résumé de tout ce que Jésus a fait depuis le début de son ministère, avec une succession de rencontres, d'enseignements, de prédications, de guérisons qu'il a opérées. Il est l'acteur principal, il est le sujet des verbes en Matthieu 9, 35. C'est lui qui parcourt, qui enseigne, qui prêche, qui guérit, qui appelle. C'est la mission de Jésus. C'est la mission de Dieu. Et nous y prenons part. Jésus prêchait principalement aux Juifs de la Galilée, de la Judée, et à nous qui faisons partie de l'Église, Jésus nous confie le rôle d'aller dans sa mission, celui d'annoncer la bonne nouvelle du salut, non pas seulement aux Juifs, mais au monde entier, et c'est effectivement ce qui arrivera avec le début du livre des Actes des Apôtres. Dès le chapitre 8 de l'Évangile des Actes des Apôtres, Étienne vient d'être le premier martyr de l'Église. Il y a une persécution qui se déchaîne à Jérusalem contre l'Église. Et que se passe-t-il ? Les chrétiens fuient la ville. Ils se dispersent dans toute la Judée. Il y en a même qui vont en Samarie. Et puis, en se dispersant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent de Jésus. Ils annoncent l'Évangile. Et c'est comme cela que, dès le chapitre 8 des Actes des Apôtres, la bonne nouvelle du salut se propage toujours plus loin, en dehors même des frontières de la Judée, de Jérusalem. Ça va jusqu'en Samarie, et ça atteindra même les païens, en Actes, chapitre 10. Ces premiers chrétiens ont usé de leur rôle de témoins, témoins de ce que Dieu a fait dans leur vie, et l'Évangile a été proclamé, annoncé. À qui voulait l'entendre ? Ça a été bien reçu, ou pas, mais ça a été annoncé. Et c'est également à cela que Dieu nous invite aujourd'hui. Mercredi passé, cela faisait 25 ans que je suis devenu chrétien. Mais est-ce que je serais là aujourd'hui à m'adresser à vous si, il y a 25 ans en arrière, mon meilleur ami de l'époque ne m'avait pas parlé de Jésus-Christ, de sa foi ? Je ne sais pas vous dire, peut-être que oui, parce que le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver. Peut-être pas encore, peut-être que je serai encore dans la description que Paul a faite en Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3, et puis je ne pourrai pas me reconnaître des versets 4 et suivants, parce que je serai encore dans le péché, parce que je serai encore dans cette vie sans Dieu, peut-être. Mais si je suis chrétien, c'est parce que Sylvain, cet ami de l'époque, a endossé son rôle de témoin. Il m'a partagé l'Évangile. Il m'a invité dans son église. Il m'a invité au groupe de jeunes. Dans tout ce que nous faisons, soyons intentionnellement tournés vers l'extérieur, vers le monde, dans les relations que nous développons et avec les personnes qui composent nos différents réseaux relationnels. Et on en a plein des réseaux relationnels. On n'a jamais été plus en relation qu'aujourd'hui avec tous les réseaux qui peuvent exister. Encore faut-il arriver à faire nouer des relations de qualité. Et ça, c'est plus difficile, mais c'est un autre sujet. Comment est-ce que notre foyer peut être le lieu où la bonne nouvelle de Jésus est vécue et annoncée à nos voisins, à nos amis, à nos proches ? Est-ce que nous nous attendons à ce que des personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ soient présentes là, dans nos activités en Église ? Alors, dans le cadre du culte, mais même dans les groupes de quartier. Parfois, un groupe de quartier, c'est une porte plus facile à franchir pour une personne qui ne croit pas en Jésus que de venir dans une église. Une église, j'ose pas. C'est plus intimidant. Alors qu'un groupe de quartier, c'est peut-être plus familial, moins intimidant. Une étude biblique, une réunion de prière même. Pourquoi pas ? Dans 2 mois et demi, le dimanche 31 mars, ce sera le dimanche de Pâques. Et je vous pose déjà la question maintenant, qui allez-vous inviter pour ce culte ? J'ai remarqué que bien souvent, les chrétiens mettent un accent très fort sur Noël. Et on a raison, parce que c'est important Noël. Mais Pâques, ça résonne aussi comme quelque chose, ou ça devrait résonner aussi comme quelque chose d'important dans la vie de nos églises, dans notre piété. Bien souvent, j'ai l'impression que Pâques, ça résonne avec « Chouette, il y a le lundi de Pâques, c'est férié, on va se faire un petit week-end quelque part. » Alors qu'en fait, c'est un moment privilégié, d'une part pour vivre quelque chose de fort en église, de se rappeler ensemble la résurrection de Jésus-Christ, et je le disais tout à l'heure, c'est fondamental pour notre foi chrétienne, mais aussi c'est une occasion privilégiée pour inviter des personnes autour de nous et leur faire découvrir ou redécouvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Notre vie d'église est faite de bien des moments qui sont autant d'occasions de rayonner, d'être ces témoins que le Seigneur nous appelle à être dans nos lieux de vie, dans la vie du quartier de l'église, mais dans nos quartiers respectifs. Il faudrait qu'un jour je le fasse, qu'on le fasse, mais qu'on regarde une carte de tout Nîmes et la région et qu'on regarde où on habite. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent de tout près ici, mais il y a des gens qui viennent de très loin. En fait, l'église évangélique baptiste de Nîmes, elle est partout dans la région. Quand on regarde nos lieux de vie, on est partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, il y en a partout. On dit souvent que nous amenons des personnes à Christ. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle de l'Église d'amener Christ au monde ? C'est tout en nuance, hein, mais d'amener Christ au monde, d'aller à l'extérieur, dans nos lieux de vie, dans nos cercles relationnels, et de dire « J'ai conscience que tu vas pas bien, je le vois, tu souffres, tu n'as pas d'espérance, tu cherches des solutions, tu cherches des réponses aux questions que tu te poses, et j'ai la solution, j'ai la réponse. Cette réponse, c'est une personne. » Et elle s'appelle Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons, soyons intentionnellement tournés vers l'extérieur. Jésus, le Seigneur sans égal, nous donne un ordre de mission sans frontières. Allez donc et faites des disciples de toutes les nations. Et les nations, elles sont là, hein, dans Nîmes. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Elles sont là. Et Jésus continue son ordre de mission avec la troisième partie dans la structure de notre passage, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Faire des disciples, ça se décline ici par le fait de baptiser et d'enseigner. On devient disciple à notre conversion, et ça se prolonge par le baptême, par lequel on dit, on renouvelle à la communauté qui est présente notre désir, notre volonté, notre engagement à être disciple de Jésus. Autrement dit, à le suivre, à lui obéir, à mettre en pratique son enseignement, à contribuer à faire des disciples à notre tour, et ainsi de suite. Et donc, en toute logique, le baptême est présenté dans le Nouveau Testament comme, on pourrait dire, le premier acte d'obéissance du chrétien. Il intervient toujours au début, vers le début de la vie chrétienne, et c'est un peu comme un commencement dans la marche du disciple de Jésus. Et peut-être que ce matin, je vais employer le « tu » là, mais peut-être que tu es là. Tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur. Tu as reçu Jésus comme, tu le vois comme ton sauveur, le Seigneur de ta vie. Mais tu n'es pas encore baptisé. Et je t'invite dans ce cas à continuer d'y réfléchir, ou à y réfléchir si ce n'est pas déjà le cas, à venir en parler avec Pierre, avec moi-même, avec les anciens dans l'Église, pour qu'on puisse prier avec toi, n'hésite pas. La seconde partie, ici, de cette, du fait de faire des disciples, concerne l'enseignement, leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Autrement dit, il faut enseigner la parole de Dieu, il faut enseigner la Bible. L'apôtre Paul, quand il fait ses adieux en Actes 20, versets 25 et 26, aux responsables de l'église d'Éphèse, il leur dit ceci: « Je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. » C'est le rôle de l'Église d'enseigner. Alors c'est vrai que dans l'Église, tout le monde n'enseigne pas. Il y en a qui enseignent dans le cadre de la prédication, il y en a qui enseignent dans le cadre de l'étude biblique, il y en a qui enseignent dans le cadre de tout ce qui est l'école des enfants. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est un petit peu comme dans une équipe sportive, tous ne sont pas capitaines, ou tous ne sont pas ailiers ou défenseurs ou gardiens de but. Mais c'est chacun dans son rôle qui fait qu'il y a une bonne cohésion dans l'équipe. Et bien de la même manière, nous ne sommes pas tous des enseignants, mais nous sommes tous en quelque sorte, on pourrait dire, des formateurs, en ce sens que nous apprenons les uns des autres, nous nous encourageons, nous nous édifions, nous nous voyons vivre aussi. Et il y a cette invitation ici, cette exhortation à vivre en obéissant à tout ce que Jésus nous a prescrit. Notons que pour pouvoir faire des disciples, il convient d'être disciple soi-même, et donc de manifester notre engagement à obéir à Jésus-Christ. Parce que obéir à Jésus n'a jamais été une option facultative dans la vie chrétienne. De nos jours, on dit j'ai fait un bac scientifique avec l'option mathématique. Voilà. Et du coup, on transpose. Moi, je suis chrétien, option obéissance. T'as pris l'obéissance, toi ? Ah, moi, j'hésite un peu. Je suis juste chrétien. En fait, ça n'a pas de sens. Obéir à Jésus n'a jamais été une option facultative. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître, qui met ses pieds dans les traces de son maître. On l'a chanté tout à l'heure, il met ses pieds dans les empreintes de son maître. 1 Jean 2, verset 6, « Celui qui dit demeurer en moi, dit Jésus, doit marcher comme j'ai marché. » Sinon, ce n'est pas un disciple. Si on veut être disciple du Christ, on ne peut pas faire le tri dans l'enseignement entre ce qui nous convient et puis bon, ce qui nous convient un peu moins. Il y a l'exhortation à obéir nous-mêmes à tout ce que Jésus nous a enseigné, nous a prescrit, et de manière à pouvoir ensuite l'enseigner à d'autres, et ainsi de suite. Et cela renvoie entre autres à la lecture de la parole de Dieu, à être enraciné dans cette parole, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. Il nous les donne dans la Bible, Nouveau Testament et Ancien Testament. À vivre la vie de l'Église, à s'impliquer dans la vie de l'Église. Jésus, le Seigneur sans égal, nous donne un ordre de mission sans frontières et nous invite à une obéissance sans réserve. Et puis Jésus termine ici par cette quatrième partie où il parle à nouveau de lui. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ordre de mission que Jésus nous donne, qui est affiché en bleu ici, il est encadré par deux choses dans cette structure en chiasme. Une affirmation en haut de sa toute-puissance, il est le Seigneur sans égal, et puis en bas, il y a cette promesse de sa présence sans fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une promesse à la fin de l'évangile de Matthieu qui est comme un écho avec cette parole dans Matthieu 1, verset 23, au tout début de l'évangile. Voici que la Vierge sera enceinte, Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Dieu avec nous. Jésus, Dieu avec nous, était avec les disciples tout au long de l'évangile de Matthieu. Et là, au moment où il s'apprête à remonter, il dit « Mais en fait, je continue d'être avec vous et avec tous ceux qui vont suivre derrière ». Et j'attire votre attention qu'il y a quelque chose ici qui il me semble, n'a pas été fait au hasard. Si on regarde très, très littéralement le dernier verset, la dernière partie en vers, très littéralement, on a ceci. « Voici, moi, avec vous, je suis tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est comme ça que c'est dit dans le texte original en grec. Le fait que ce soit écrit dans cet ordre, « avec vous, je suis », ça, en soi, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait normal, c'est toujours dans cet ordre-là, dans le Nouveau Testament. Quand on a « je suis avec vous », en grec, c'est dans l'ordre « avec vous, je suis ». Bon. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est assez singulier ici, c'est le fait qu'il y ait le « moi » avant. « Moi, avec vous, je suis ». Comme pour mettre l'emphase sur le sujet de « je suis ». Il y a ce redoublement ici. Moi, Jésus, moi qui suis tout-puissant, qui ai reçu toute autorité, tout pouvoir, avec vous, je suis. On en a parlé cette semaine dans les groupes de quartier de l'image du cerf-livre. Ça vous parle, il y a des regards. Cerf-livre, un petit peu comme quelque chose là qui c'est dans cette structure avec un cerf-livre, il y a quelque chose là, et entre les deux, il y a nous. Et autour, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Jésus. Moi, je suis avec vous. Si on va là, il est avec nous. Si on va là, il est avec nous. Où qu'on aille, il est avec nous. Et donc, il nous dit, vous pouvez y aller dans l'ordre de mission. Je suis avec vous. Allez dans le monde, n'ayez pas peur de parler de moi. Je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. On l'aime, cette promesse de sa présence sans fin. On l'aime, mais il ne faut pas la prendre en dehors de son contexte. Et c'est vrai que souvent, quand on la cite, Jésus, il est avec nous jusqu'à la fin du monde, et c'est super. Oui, mais elle est dite dans ce contexte-là, dans le contexte d'aller dans le monde pour faire des disciples, pour les baptiser et pour les enseigner. Elle suit l'ordre de mission. Et donc Jésus promet sa présence pour accomplir cette mission de porter l'Évangile, et ce jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une promesse donc pour tous ceux et celles qui sont en route vers leur prochain pour leur témoigner de leur foi. C'est une promesse pour ceux qui obéissent au maître jusqu'à son retour. Et on est encore dans l'attente du retour de ce maître, Jésus-Christ. Finalement, c'est une promesse pour les disciples de Jésus, car un disciple témoigne de son maître autour de lui, et un disciple obéit à son maître. Et à cela, Jésus fait la promesse de sa présence sans fin. Aujourd'hui, c'est donc, je le disais en introduction, le premier jour de la semaine universelle de prière. Je pense qu'on en a déjà entendu parler les années précédentes, c'est pas nouveau, de loin pas. C'est une dynamique qui est proposée chaque année par l'Alliance évangélique européenne et qui est relayée, mise en place en France par le Conseil national des évangéliques de France. Et en parallèle de cela, le Conseil national des évangéliques de France, depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, a souhaité remettre l'enjeu du progrès de l'Évangile au cœur de son action. Et ces 2 dernières années, le CNEF, avec tout un ensemble de personnes dans une commission, a travaillé à l'écriture d'une vision commune de la mission et de fédérer l'ensemble des acteurs évangéliques dans notre pays pour un élan missionnel commun. Et ça a donné lieu à un texte qui s'appelle « Ensemble en mission », qui a été voté pas plus tard que le mois dernier, et qui nous encourage en tant qu'évangéliques en France à être engagés dans cet élan missionnel. Et la semaine universelle de prière qui démarre aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain et qui porte sur quasiment le même titre, « Ensemble, poursuivons la mission », ça c'est le livret, avec des fiches de prière, « Ensemble, poursuivons la mission », se calque sur le document de « Ensemble en mission ». Et donc tout au long de cette semaine, vous pourrez, et nous sommes invités à prier, et vous recevrez dans vos boîtes mail à 12h30 précise un message que j'ai programmé avec justement le PDF de ces deux documents. Si jamais vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi ou regardez aussi dans vos spams, c'est possible qu'il arrive là. En tout cas, l'idée de cette semaine universelle de prière, c'est de nous faire prendre conscience de l'importance et des enjeux du partage de l'Évangile dans notre monde et en particulier dans notre pays ici en France, et puis dans nos lieux de vie, en locaux à chacun. Et c'est pourquoi ce matin, j'ai voulu revenir sur cet ordre de mission que Jésus a donné à son Église. Car Jésus, le Seigneur sans égal, nous a promis sa promesse sans fin. Oui, mais il attend aussi de nous deux choses qui sont au cœur ici de cette structure en chiasme. Tout d'abord, il y a cet ordre de mission sans frontières. Endossons notre rôle de témoin, apportons à notre prochain le message de la bonne nouvelle de Jésus, mort et ressuscité. Et puis ensuite, il y a aussi cette obéissance sans réserve qu'il attend de nous. Il nous invite à nous engager, à lui obéir, à marcher à sa suite, tels des disciples à la suite de leur maître. Que le Seigneur nous garde. Amen.